Bienvenue dans Libre et Productif, le podcast de ceux qui veulent en faire plus et qui veulent vivre de leur passion. Toutes les semaines, je te partage des idées, des techniques et des outils pour améliorer ton quotidien, libérer ton potentiel et être heureux. Je suis Théo Maréchal, un entrepreneur indépendant qui vit à Tokyo, et je te remercie de commencer cette belle aventure avec moi. Bonne écoute! Salut, c'est Théo et je suis de retour. J'espère que tu vas bien. Bienvenue dans ce nouveau podcast. Ça faisait un peu longtemps. Aujourd'hui, je voulais t'expliquer pourquoi est-ce que j'ai moins publié ces derniers temps. Et en fait, c'est assez simple. Il y a plusieurs raisons. Comme toi, je suppose, je suis en quelque sorte un peu confiné, même s'il n'y a pas vraiment de confinement à Tokyo. Et j'ai également des travaux de temps en temps à côté de chez moi la journée. Et le soir, ma Wi-Fi est nulle. Donc si j'upload l'audio sur encore ma plateforme de podcast, ça met au moins 2 heures. Et parfois, l'upload ne marche pas parce que la Wi-Fi coupe. Donc voilà, c'est un peu galère. Mais bon, bonne nouvelle, on va bientôt me changer ma Wi-Fi. Donc je vais peut-être pouvoir avoir un nouveau rythme digne de ce nom. Et aujourd'hui, on va parler du sujet qu'on avait évoqué la dernière fois, qui était le livre La semaine de 4 heures. On a commencé à en parler il y a 2 semaines maintenant. Et si tu atterris sur celui-ci, je te conseille d'aller écouter le premier pour qu'il y ait un peu plus de logique dans l'ordre des idées, étant donné que les deux sont à peu près liés, même si les idées sont différentes. Et on va s'y replonger tout de suite avec un autre point qui est issu du livre de Tim Ferriss. Et ce point, c'est de ne pas écouter les médias. Donc l'info en continu, lui, il considère que c'est une perte de temps absolue. Et j'avoue que j'étais plutôt du genre à regarder les infos quand j'étais plus jeune. Et pendant un moment, c'était même devenu un petit rituel. C'était le 19:45 sur la 6 que je regardais pendant un petit moment. Et petit à petit, ça m'a lassé, j'ai grandi, j'ai vieilli, et les infos m'ont lassé, et puis j'ai bougé à Tokyo, et là, terminé, fini les infos, pas de JT, que dalle, et je m'en suis jamais aussi bien porté. Quand ils pensent, c'est vrai que toutes les chaînes d'information en continu, leur but, c'est de vendre du sensationnel. C'est pour ça qu'elles arrivent à caler des pubs entre leurs 2 JT qui recyclent de 15 minutes. Ils mettent des pubs. Et en fait, les annonceurs cherchent ça, cherchent du sensationnel. Et d'ailleurs, ces genres de chaînes ne se portent jamais aussi bien que quand il arrive un truc dramatique, que ce soit lors des attentats en 2015, ou que ce soit au pire des moments, c'est dans ces moments-là que les chaînes comme BFM Télé ou LCI font les meilleures audiences. Et au final, le pessimisme et la névrose, c'est ce qui vend le mieux, et ils l'ont bien compris. Dans ce genre de chaîne en continu, on ne parle jamais de trucs positifs. Et tu regardes, même dans les JT, en général, il n'y a que des trucs négatifs, à part dans le JT de Pernod à 13h, qui est plutôt positif. Sinon, tous les autres JT, toutes les autres chaînes d'information en continu sont surtout négatifs et appuient sur le négatif parce que c'est ce qui fait le plus réagir, c'est ce qui fait le plus d'audience et c'est ce qui fait le plus vendre. Donc ce que Tim Ferriss te conseille, c'est de te couper de tout ça. Moi, je me suis coupé de tout ça, je me suis coupé de tout, je ne vais plus sur Facebook, j'utilise que Messenger de Facebook, je lis aucun média à part Les Échos, Financial Times, c'est leurs articles, et le reste, c'est que des newsletters triés sur le volet, ou des articles de blog de mes blogueurs préférés, ou des vidéos de mes créateurs de contenu préférés, ou alors des livres ou des articles un peu plus académiques qui ont un aspect plus réfléchi et qui vont un peu plus au fond des choses, qui parlent de ces sujets-là à froid, et du coup, il y a beaucoup plus de réflexion, et c'est beaucoup moins putaclic, et c'est beaucoup moins aguicheur sur le titre, sur le contenu. Et voilà, ils disent beaucoup, beaucoup moins de conneries sur les articles qui sont rédigés à froid que sur l'info en continu, l'info en dernière minute. L'info en continu, ça t'apporte rien du tout, c'est un puits de vide, une abysse de rien, ça t'apportera jamais rien dans ta vie, et les infos essentielles, tu les auras forcément d'une manière ou d'une autre. C'est pour ça, on a des amis, on a des connexions sociales, on peut échanger avec eux aujourd'hui, ça n'a jamais été aussi facile, donc si tu as des infos dont tout le monde parle, tu seras au courant. Ça devrait te libérer un énorme paquet de temps, parce que les chaînes d'infos en continu, l'information en continu, c'est quelque chose qui, c'est une éponge à temps, ça te prend de ton temps, ça te prend de ton espace cérébral pour du rien, parce qu'en fait c'est que des faits divers dont t'as strictement rien à foutre. Et on a vu justement la définition et la notion de temps pour toi, mais maintenant on va parler de la notion d'un point de vue du business. Donc, chaque journée passée sur ton business, en termes de temps, doit faire des différences. C'est un truc que je me dis quand je bosse, je me dis, est-ce que Théo, ce matin, ce que tu as fait, ça t'a vraiment apporté à ton business ou pas, ou pareil pour l'après-midi, peu importe. Si oui, c'est cool, c'est exactement ce que je veux, sinon c'est pas bon, et je me remets en question et je me dis, ok, comment est-ce que je peux arranger les choses? Et je me dis, est-ce que je peux supprimer des tâches que j'ai à faire, ou est-ce que je peux les automatiser, ou est-ce que je peux payer quelqu'un pour le faire à ma place? Et là, ça rejoint exactement ce que dit Tim Ferriss dans son livre. Si c'est une activité, par exemple, qui te prend du temps mais qui t'amuse, il faut la garder parce que ça va avec sa réflexion de faire des choses qui te plaisent, de ne pas faire des choses où au final, tu es enchaîné aux tâches que tu dois faire, mais plutôt te libérer de ces tâches-là et faire celles qui t'amusent et celles qui t'ennuient, tu les délègues. Donc, si t'aimes pas forcément cette tâche, mais qu'elle est obligatoire, tu peux la déléguer ou l'automatiser, donc par une app, un produit, ou alors en payant une personne, comme par exemple sur Upwork ou Fiverr. Le but, c'est d'automatiser tout ce qui est possible d'automatiser. Moi, je déteste l'administratif, ça m'horripile. Donc, par exemple, j'ai souscrit à un service qui est pas cher, qui s'appelle Kickbanking, que j'ai découvert, qui gère toutes les emmerdes que tu peux avoir avec des organismes type URSSAF, etc. Il s'occupe de tout, c'est vraiment génial. C'est un service qui est vraiment pas coûteux. Et ça t'enlève un volume d'informations que t'as plus à traiter et c'est quelque chose que je déteste faire. Ça m'a vraiment libéré et l'argent que j'ai mis dans cet outil-là, je trouve que c'est vraiment un investissement hyper rentable par rapport à la lourdeur de ce que la tâche représentait. Moi, j'ai pas de partenariat avec eux, je te la recommande. C'est un gain de temps essentiel sur quelque chose que j'aime pas faire. Donc si tu as le même problème que moi, je te la recommande, ils sont vraiment top. Et pour calculer justement comment est-ce que tu peux faire la balance entre ce que tu aimes pas faire et ce que tu dois faire, je te conseille de ramener tes revenus à une heure. Donc tu t'essayes de visualiser en fonction de tes revenus, en fonction de ton temps de travail, combien est-ce que tu gagnes par heure. Ensuite, tu calcules le temps que ça prend. Donc si par exemple, tu fais une tâche qui fait une heure si par exemple cette tâche-là est pénible, tu appliques un multiplicateur de pénibilité de 1, entre 1,25 et 1,5. Et en fait, si tu te rends compte que ce que tu es en train de faire, l'heure que tu vas passer à faire ça, au final va te coûter plus cher si tu l'as fait toi que de la déléguer, et bah délègue-la parce que tu pourras te focaliser sur autre chose de plus important, tu seras plus heureux parce que c'est une tâche qui t'ennuie, et il y a quelqu'un qui sera très heureux de le faire à ta place pour gagner sa vie. Donc ça crée de la valeur pour tout le monde et surtout pour toi. Maintenant, on va passer à un autre sujet du livre qui est un peu plus croustillant, on va même dire croustifondant, pour reprendre l'expression d'un de mes potes, les muses. Alors les muses, c'est un sujet qui me passionne particulièrement parce que c'est typiquement ma vision du business, c'est exactement ce qui me drive. C'est un business qui fonctionne pour toi et pas l'inverse. Une muse sur le principe, c'est une entreprise que tu vas essayer d'automatiser un maximum, dont le contenu que tu vas créer va travailler pour toi et va travailler avec le temps. Par exemple, un blog, ça peut être une muse. Si par exemple tu as créé un blog en 2012, à l'époque de l'apogée des blogs, et que ce blog a continué de tourner et t'a rapporté des revenus soit par la pub, soit par des produits digitaux que tu vendais, peut considérer que c'est une muse parce qu'elle a réussi à tourner sans toi. La muse, c'est par définition quelque chose que tu arrives à faire prospérer dans le temps sans qu'il y ait besoin d'intervenir et sans que tu sois attaché à faire tourner le business tous les jours. Donc une muse, ça demande pas tant de travail que ça sur le très long terme, mais énormément au début parce qu'il faut la construire, parce qu'il faut construire le mécanisme qui fait que ça tourne et au final, la courbe de résultat, à un moment donné, va surpasser ta courbe d'effort, puis ensuite, elle va l'atomiser complètement pour que ta courbe d'effort reste au niveau zéro et que ta courbe de résultat continue sa croissance exponentielle. Le plus précieux pour moi, tu l'auras compris, c'est la liberté. C'est pour ça que je fais ce podcast-là, pour te parler de mes idées, de mes idées notamment sur ce sujet-là. Et les muses, pour moi, c'est le seul moyen de travailler seul sans être freelance. Et pour te présenter quelques muses, parce qu'au final, il y a une muse, on peut regrouper plein de choses sous le même nom. Il y a le contenu, donc ce que je te disais à propos des vieux blogs. Il y a le dropshipping aussi, par exemple, qui peut être une muse si le gain de trafic est organique. Évidemment, si tu dois passer la journée à checker tes ads toutes les 5 secondes, c'est plus une muse, c'est un business normal. Amazon FBA aussi, ça peut être une muse. Mais pour moi, la meilleure muse, c'est les petits logiciels. Donc un petit logiciel sur un segment donné qui peut améliorer la vie de certains de tes utilisateurs qui ont besoin de ce logiciel et qui vont te payer une somme forfaitaire par mois. Et au final, ces petits logiciels, je pense notamment à tous les plugins qui sont sur WordPress qui s'attachent à un petit segment spécifique, c'est vraiment un business hyper rentable parce que tu n'as pas besoin forcément de mettre beaucoup d'efforts si tu arrives à trouver le bon moyen de le partager, notamment par exemple en ce moment si tu fais des plugins pour Shopify, c'est quelque chose qui cartonne parce qu'il y a de plus en plus de sites qui sont faits par Shopify et tu peux améliorer un site Shopify de plein de manières différentes. Et d'ailleurs aujourd'hui je vais te donner une petite idée gratos comme ça, cadeau, une idée de muse. Le premier qui fera cette muse, je lui garantis que si en tout cas au niveau de l'idée, c'est vraiment une super idée, après c'est évidemment comme toujours c'est l'exécution qui paye. Je vais te parler d'un CMS. Donc un CMS, c'est un logiciel qui permet d'éditer des sites comme WordPress, c'est le plus connu, ou Webflow aussi. Celui-là, il s'appelle Ghost. Et en fait, c'est un CMS qui est idéal pour les blogueurs. Et d'ailleurs, tous les blogueurs, il y a un retour un peu en force du blogging et tous les blogueurs utilisent Ghost parce que c'est beaucoup plus fluide que WordPress. WordPress, ça commence à dater un petit peu, c'est très lourd, il y a beaucoup de spam et Ghost, ça s'applique sur des technologies modernes, des technologies de développement modernes. Et du coup, c'est un peu un WordPress nouvelle génération. Ce CMS, il est extrêmement fiable, il y a zéro spam, c'est hébergé sur tes serveurs comme WordPress et tous les blogueurs commencent à l'utiliser. Et comme avec WordPress, il y a énormément de plugins qui commencent à arriver, des intégrations avec d'autres applications, mais il y en a trop peu et il y a tout à faire. Et l'idée que j'ai envie de te donner aujourd'hui, tu peux la prendre, tu peux la jeter, t'en fais ce que tu veux, c'est de faire un outil de gestion des liens affiliés pour les blogueurs sur Ghost. Donc il y a énormément de blogueurs qui font qui fonctionnent par l'affiliation, c'est-à-dire qu'ils vendent un produit avec un lien. Dans ce lien, il y a un tag qui l'identifie comme la personne qui a amené du trafic au produit qui font la promotion. Et en fait, ce système-là permet au blogueur de gagner un revenu parce qu'il a fait de la pub au final au produit qu'il présente. Et du coup, il y a énormément de gens, de blogueurs qui ont besoin de ce système de gestion des liens affiliés et il n'y a aucune application qui fonctionne avec Ghost. Donc voilà, si tu n'avais pas d'idée de business et que tu penses que c'est une bonne idée, vas-y, fonce. Je pense pas que ça doit coûter très cher à développer. C'est des technologies qui s'implémentent assez facilement. Donc c'est cadeau. Ensuite, on va parler d'un autre point, c'est une fois que tu as ta muse, donc évidemment, il y a plein de types de muses. Ça, je te laisse piocher dans Google, qui a plein de ressources, tu vas pouvoir trouver plein de types de muses possibles et inimaginables. Mais moi, j'ai envie de te parler d'une fois que ton produit est terminé. Si par exemple, tu as un trafic qui te permet d'en vivre comme il faut, tu peux déléguer le service client via email ou téléphone si tu es plus gros. Tu peux aussi déléguer la comptabilité et l'administratif. Tu peux payer un pro au prix fort pour qu'il te gère tout ça. Et tu peux trouver des prestataires, il y a plein de sites comme Malt pour les prestataires les plus qualifiés, mais sinon tu as Upwork, Fiverr, Freelancer, bref, tu as la possibilité de tout déléguer. Et comme ça, tu vas pouvoir la mettre sur pilote automatique et tu vas pouvoir ne plus t'en soucier tout en gardant ton revenu mensuel qui tombe chaque mois et qui te permet de vivre peu importe où tu veux, selon tes propres termes, tu décides, tu peux même faire un autre business à côté. Voilà, une muse, c'est quelque chose qui tourne pour toi et c'est quelque chose qui s'améliore, enfin qui grossit légèrement avec le temps, mais sans que tu aies jamais besoin de remettre les mains dans le cambouis. Et une fois que ça a bien grossi, une fois que ta muse tourne bien, tu peux décider de la revendre. C'est un des avantages de la muse, par exemple, si tu fais un produit digital, une petite application comme ça, et ben au final, c'est quelque chose que tu peux revendre. Je pense notamment aux créateurs de contenu. Ils vont pas se revendre eux-mêmes, donc ils peuvent vendre des formations, etc. Mais il y a un moment donné, ils pourront pas se revendre eux-mêmes. Et du coup, le gros avantage de ta muse, c'est que si elle tourne bien et si elle a un peu d'ancienneté, qu'elle a des clients fidèles qui sont là tous les mois, etc., tu peux essayer de la revendre. Et il y a un espèce de coefficient qu'on utilise, c'est que si par exemple, elle a tourné pendant entre 2 et 3 ans entre 4 000 et 5 000 € mensuels, on va dire 5 000 pour simplifier, tu peux essayer de la revendre à 150 000 €, quelque chose comme ça, si t'as permis d'obtenir 5 000 € par mois pendant 3 ans, on va dire, donc donc 30 mois, on va prendre comme, comme exemple. Donc au final, tu vois que c'est pas mal pour un petit outil qui tourne tout seul, pour une population très ciblée et qui génère pas mal d'utilisateurs. Une fois que tu l'as revendu, tu peux décider de faire ce que tu veux. Tu peux partir faire un voyage à l'autre bout du monde ou réinvestir. Tim Ferriss, dans son livre, il te conseille de faire des mini-retraites. Moi, je ne suis pas forcément pour parce que je te dis que ça, fait, ça peut te faire être un peu périmé du, si tu ne gardes pas la tête dedans. Tu peux assez vite justement être dépassé par les événements. Et justement, voilà, tu peux perdre pied. Et être dépassé. Moi, je suis un obsessionnel du détail et personnellement, c'est pour ça que je suis pas prêt à faire une muse et à plus la toucher pendant 4 ans parce que si je crée un produit, je le trouverai jamais assez bon et je voudrais toujours offrir plus de contenu à mes clients. Je me dirais, c'est pas assez, il me manque cette feature, il faut rajouter ça, il faut rajouter ci, voilà. Je voudrais toujours bonifier le produit et c'est pour ça que une muse en tant que telle a vraiment tout automatisé pendant 4 ans, même si c'est mon format préféré parce que c'est celui qui te permet d'être le plus libre, le fait de laisser le truc un peu pas pour mais le laisser de côté, c'est quelque chose que je peux pas faire, je suis trop obnubilé par le faire grandir tous les jours. Mais ça, ce sujet-là, je te en parlerai dans un nouveau podcast. Aujourd'hui, on va finir là-dessus. J'espère que tu auras aimé ce format. C'est tout pour ce livre, donc ce livre que j'ai adoré, qui est un classique des classiques. Je te recommande évidemment fortement ce livre, La semaine de 4 heures de Tim Ferriss, parce que c'est une méga référence en termes d'entrepreneuriat indépendant et il faut absolument que tu le lises si tu l'as pas lu. Tu peux lire le résumé, il y a plein de résumés gratuits sur Internet. Et sur ce, je te souhaite une très très bonne journée et on se dit à demain. Et voilà, ce podcast est terminé. S'il t'a plu, prends 5 secondes pour me donner 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Ça m'aide énormément à être plus visible et à continuer de faire ce podcast régulièrement. Si c'est déjà fait, il ne me reste qu'à te souhaiter une excellente journée et à bientôt dans un nouvel épisode. Allez, salut !